Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Maugé.
Je reprends mon analyse de la poésie de Roland Giguère en récitant un très joli poème qui s'appelle « L'âge de la parole ». Un vent ancien attache nos tréteaux. Dans une plaine ajourée renaissent les aurochs. La vie sacrée reprend ses ornements de fer, ses armes blanches, ses lames d'or pour des combats loyaux. Le silex dans le roc patiente et nous n'avons plus de mots pour nommer ces soleils sanglants. On mangera demain la tête du serpent, le dard et le venin avalés, quel chant nouveau viendra nous charmer. Et je ne peux pas résister au plaisir de vous lire quelques strophes d'un long poème qui s'appelle « Adorable femme des neiges ». Nous sommes loin d'ici, sur les chemins de neige. Nous sommes loin de la veille sans lendemain. Nous sommes seuls et le silence prépare un feu parfait à l'ombre même de nos désirs. Nous appartenons à tous les futurs, puisque ta réalité est possible, puisque tu es réel, au cœur des neiges éternelles, je laisse mon dernier regard à l'orée de ta beauté. Pour ta réalité offerte, 1000 légendes dorées, pour ta beauté secrète, une ceinture d'astres légers. Hier tu n'étais pas, aujourd'hui tu flambes, ardente au courant des saisons. Tu ruisselles au flanc des falaises et te courbes dans le noir. Ailleurs pour te posséder, on détruit ton visage, on t'invente une histoire. Les midis sont pâles dans ce pays d'où je viens et la lune rouille sur les remparts. Il y a des jours où tout est vain, sauf ton image, sauf la blancheur de ton corps sur ces terres amères. Le calme pèse nos paroles aux heures creuses et la force nous vient d'un autre âge pour croire aux adages qui hantent nos hivers. Et je termine par une dernière strophe. La pointe du jour, c'est ton sein gauche. Appuyé sur le soir. Et le soir, tu entres pour passer la nuit, nu, sous les abat-jours de parchemin sur lesquels on écrit une phrase éblouie, « Adorable femme des neiges ». Vous voyez que cette poésie est une très grande poésie de cette Amérique française. Donc, je reprends mon analyse de l'âge de la parole et pour ajouter, évidemment, ce que j'ai dit à ce que j'ai dit durant la première série. Poème de cette rupture, cher également à Paul Chamberlain, chez qui la haine se dilue dans le feu, chez qui le corps se fait violence, s'associe au vent, au raz-de-marée, à la tornade, à l'ouragan, pour hisser la violence apaisée, l'étendard de la flamme. On est tenté de rapprocher un tel délire verbal de l'écriture de Michaud. L'homme y rejette le passé infernal pour tenter de discerner l'avenir, car le présent se dérobe et on ne peut pas rebrousser chemin. L'aventure pousse de l'avant, mais parsemée de dégringolades, d'escalades, si bien que le voyageur rencontre la confusion et l'inextricable au lieu d'aboutissement. Le poète ne veut plus de l'imposture, détruit le paysage et continue à assumer la courbe ascendante de sa vie. Ce poème, branche, maîtresse de l'expression de lui, soutient son existence torturée, je cite, « c'est au frottement de l'homme que le fer s'adoucira ». Il englobe et l'apocalypse et la genèse de l'homme comme sa volonté de libération et de délivrance. Le monde n'est plus un rêve, mais une dangereuse réalité où l'espérance éclot du charnier, le recueil, yeux fixes, est traversé de ce souffle paroxystique où les images appuient nos propos, je cite, vivre constamment en état d'éclatement, le délire des mots jette la base d'un archétype d'évasion. Les armes blanches, image qui existait déjà dans le recueil Midi perdu, introduit un premier poème intitulé « Continuer à vivre ». Aux armes, au métal, le poète y oppose sa conscience. On voit la matière humaine se détacher d'un monde ruiné et l'être vomir tout son passé. Je cite, « Ce n'était pas la peur, mais le dégoût qui nous serrait la gorge. Que de calamités de ce monde, virus, plaies, poisons, blessures de toutes sortes, une certaine culpabilité d'appartenir à toutes ces immondices souille encore la conscience quand déjà une saine réaction s'empare de l'être. Nous commencions d'inventer un monde avec les formes et les couleurs que nous lui avions rêvé. Nous qui sommes tous solidaires, à qui les mots flots délivrent la parole royale jusque-là interdite. Avec le poème incantatoire, très beau poème, je dois vous le dire, « Rose et ronce ». L'opposition s'intensifie, plus fortement soulignée avec toute cette vie qui défile entre les roses et les épines. Rose, rosace, ronce revient comme un leitmotiv. Chacun de ces mots repose sur une valeur qui permet d'opposer les antagonistes. Rose et ronce, par exemple, tandis que la rosace se dégage en se superposant à la rose et rose à la ronce. On retrouve ici les dons de Giguère, un excellent artiste graphique. Mais alors, le temps du bonheur va-t-il marquer son avènement? C'est sur cette interrogation que le poème se termine. Les armes blanches expriment différents niveaux de connaissance. À l'apparence, le poète a essayé de substituer une réflexion et une vision plus profonde. Les yeux fermés ont protégé et garanti un chemin intérieur éclairé par la seconde vision, porteuse de la délicate mission de forer les dédales de la connaissance intime. Le moment redouté du poète, je cite, « c'est au moment où l'on ferme les yeux, où l'éblouissement rend aveugle l'intériorité secrète. Une fois fermée, les yeux garantissent l'entité du poète qui, dans l'éclat d'une seconde vue, s'approche paradoxalement de la mort et de la vie. L'effort humain, dernier poème des armes blanches, incarne dans le champ des cadavres l'enfant dont apparaît le blanc visage. Lieux exemplaires, autre poème, assume en prose poétique le rythme répétitif des angoisses, des désirs et des rêves, au moyen desquels l'homme essaie d'édifier un lieu exemplaire par l'imagination, mais des débris le gênent. Il ne renonce pourtant pas à son projet, veut percer l'opacité, déchirer l'espace. Le visage, cite le visage, montre ses racines propres, toutes debout disparues. Après un répit, l'accablement mine l'homme. Je cite « À quoi bon réparer, nous laissons tout crouler ?» Mais une deuxième vue essaie de percevoir la vérité et le recueil s'achève sur un ton prophétique où la lumière contingente tient en échec l'obscurité originelle. En pays perdu, et le recueil, autre recueil, et le recueil où le poète précise sa vision, orienté par une nouvelle dialectique, en de nouvelles lignes de force de démarche, le passé incendié, ce ne rappelle pas nécessairement la métamorphose en statue de sel, châtiment du regard défendu sur les villes maudites de Sodome et Gomorre. Le poète veut bien reconnaître que l'avenir a toujours eu sur lui la plus forte attraction, ce qui ne diminue pas pour autant le déchirement de son être écartelé en la dualité originelle. Il médite sur tout ce qu'il a dû rejeter pour continuer, déclarant que tout est à apprivoiser, l'air et le vent, la parole et le chant. Un optimisme généreux éclate dans le poème où la méditation engendre l'action, transformant les mots en vœux. Je cite « Après la défiguration viendra la transfiguration ». Giguère a voulu façonner ce visage qui va naître comme un visage universel, mais il doute encore et des images contraires le traversent. Or, il sait à présent comment s'allument les cœurs, même si tout bonheur est provisoire. Cette longue mélopée va se transformer en un chant lyrique dans son dernier recueil, Adorable Femme des Neiges, que j'ai lu, d'ailleurs je vous ai lu quelques extraits tout à l'heure. Ce texte date de 1958. L'amour y succède à la reconnaissance, il tend la main à la liberté, c'est la libération de l'homme québécois en filigrane, la réconciliation de l'homme avec la vie par la femme. À la révolte, Giguère oppose la femme et l'amour, fou. Victoire assurée de l'homme sur la tentation du désespoir. Alors je cite, « Nous appartenons à tous les futurs puisque ta réalité est possible. » Simplement et soigneusement, Giguère délivre le présent fraternel. Je cite, « Hier tu n'étais pas, aujourd'hui tu flambes. » La femme s'est repoussée l'ombre, elle habite la vie nouvelle éclaire l'humanité, supprime le vertige, augmente le pouvoir de voyance, conserve précieusement la parole rare, par la médiation de la femme et de l'amour qu'il lui porte, l'homme imprime à sa vision une certitude profonde, les mains sont des objets de reconnaissance, comme les yeux, le pouvoir de création transcende. Le pouvoir de création transcende l'homme en sa multiplicité. Il dit d'ailleurs, pour aller plus loin, ne jamais demander son chemin à qui ne sait pas s'égarer. La poésie de Giguère, tributaire de l'inconscient, nous est livrée par l'effort constant de la volonté du poète, acharné à dégager au-delà des apparences les vérités pulvérisées de l'univers et que son verbe recristallise. Roland Giguère a créé avec un vocabulaire simple une myriade d'images. Quand il a souligné antérieurement le passage édifiant d'une réalité première à une réalité seconde et l'a matérialisé par les yeux ouverts qui se referment, l'étude peut se refermer sur les éléments significatifs de l'œuvre, parmi lesquels le rôle de la main peut être tenu pour significatif dans la poésie de Roland Giguère. La main matérialise l'action. Donc, et on peut dire que l'âge de la parole est centré sur une structure de type initiatique afin de permettre le passage d'un monde passé à un monde progressivement reconstruit au rythme d'une lente repossession de valeurs nouvelles. L'exemple concret le plus typique en est l'ardeur pour briser les ténèbres et l'irruption des transfigurations de l'amour. Ce passage n'est possible que s'il y a lente osmose des connaissances acquise dans le vieux monde, vers le monde neuf à ériger. La continuité structurale se traduit aussi sur le plan formel par une succession de vers particulièrement musicaux tels, je cite en conclusion, « Feu fou, tu te jouais de nous, mais dans ton ombre déjà, nous préparions ta cendre. » Donc vous voyez, Roland Giguère, c'est le feu sous la cendre. Pour les chers auditeurs, vous pouvez bien entendu retrouver ces deux émissions sur Roland Giguère dans notre médiathèque. Vous pouvez le faire bien sûr gracieusement. Merci. Thank you.